C'est l'une des applications préférées des adolescents et des jeunes adultes. Lancée aux États-Unis en septembre 2011, elle a fait fureur en imposant les vidéos verticales, ou en 2013, le format Stories, largement copié depuis. Aujourd'hui, l'application revendique 850 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde. Son logo, un fantôme blanc sur fond jaune, fait qu'on ne peut pas la rater sur l'écran de notre téléphone. Je parle bien sûr de Snapchat, mais chez les jeunes, on dit Snap. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'atelier des médias de RFI. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, un peu plus si vous faites le choix de nous écouter en podcast. Le 16 novembre dernier, nous diffusions dans l'atelier des médias une enquête sur TikTok. Je vous invite à la retrouver en podcast. On poursuit donc cette semaine avec Snapchat, et spécifiquement sur la stratégie de Snapchat avec les médias et autres créateurs de contenu. Pour en parler, je reçois Jean-Philippe Louis. Salut Jean-Philippe.
Salut Steven.
Bienvenue dans l'atelier des médias.
Merci.
Je précise que nous nous connaissons très bien et depuis une quinzaine d'années, nous allons donc nous tutoyer. Tu as longtemps, Jean-Philippe, été journaliste. Un de tes premiers stages était d'ailleurs à l'atelier des médias de RFI. Ensuite, tu as travaillé au magazine GQ, Néon et Vanity Fair, avant de travailler plusieurs années au quotidien français Les Échos. Depuis octobre 2020, 4 ans donc, tu travailles dans le bureau parisien de Snapchat, où tu es responsable des partenariats contenus et créateurs chez Snapchat France. Parlons de Snapchat déjà, de cette application et du temps que les gens y passent. La dernière étude Custodio dit que la moyenne de temps passé par les utilisateurs de Snapchat atteint 63 minutes quotidiennes. Est-ce qu'un des objectifs de Snapchat au quotidien, justement, c'est de faire que les gens passent le plus longtemps possible sur l'application ?
C'est pas l'objectif de passer le plus de temps possible sur l'application. L'application, les utilisateurs passent du temps, mais c'est un peu différent parce qu'ils sont actifs. Il y a différents types de temps passé. Il y a le temps passé où je vais rester sur, par exemple, en flux, regarder du contenu et ne pas bouger. On est d'abord une plateforme de communication visuelle. Donc l'utilisation pour un Snapchatter, c'est je suis en retard, je fais une photo, un snap, j'entoure, je mets un bitmoji, j'envoie à mon ami et je lui dis je vais être en retard. Je vais ouvrir l'application à de nombreuses reprises dans la journée, venir, revenir et échanger et parler avec des potes, utiliser des lens, etc. Il y a énormément de choses dans cette application et c'est peut-être la raison pour laquelle le temps passé est fort par rapport à d'autres. C'est tout simplement parce que je vais être actif sur la plateforme, faire beaucoup de choses. Et après, évidemment, je vais avoir l'opportunité de regarder des contenus à travers nos différents partenaires et les créateurs de contenu.
Parce que c'est vrai que c'est une application qui est plurielle. Ce n'est pas uniquement une application où on est passive en train de regarder des contenus, mais on peut également interagir. Et notamment, il y a une messagerie intégrée qui est plébiscitée par les jeunes qui remplace en fait les SMS ou WhatsApp.
C'est ça. Et puis le cœur de Snapchat, c'est d'abord la caméra. Donc en fait, les snaps, hein, tout simplement. Je prends mon téléphone, j'envoie un snap, j'envoie un ami, j'échange, communication visuelle. Et puis après, je peux échanger avec la messagerie. Snapchat a d'abord été pensé pour ça, et ensuite pour une plateforme où je vais pouvoir m'informer, me divertir, etc. Mais encore une fois, le principe même de Snap, c'est d'abord d'être actif, et c'est ce qui peut expliquer aussi ce temps passé.
C'est ce que tu as fait en entrant dans ce studio, tu as fait une photo de moi pour la partager à ta communauté, c'est ça ?
C'est ça, j'ai fait un snap tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai snappé.
Alors, Snapchat est aussi très intéressant pour les médias, puisqu'il y a un espace dans Snapchat qui a été lancé en janvier 2015, il y a donc 10 ans bientôt, qui s'appelle Discover. Explique-nous un petit peu l'esprit derrière cette fonctionnalité pour les médias.
Alors, Discover a été lancé en France en 2016. L'idée, justement, c'était je suis actif sur Snapchat, je suis un utilisateur et puis en fait je vais passer du temps sur cette application, pourquoi pas m'informer et me divertir. Si on fait cela, on voulait le faire avec des partenaires de qualité reconnus et surtout représentatifs du paysage médiatique français. Donc en fait on a sélectionné des médias, parmi eux Le Monde, il y avait aussi Vogue je crois à l'époque, pour tout simplement donner, raconter l'information aux utilisateurs directement dans l'application. Et puis on a étendu le champ, puisqu'on s'est rendu compte évidemment que il n'y avait pas que 8 médias ou 10 médias français, il y en avait beaucoup et on voulait aussi que cette pluralité se fasse ressentir dans l'application. Et donc on a étendu. On a ajouté des partenaires petit à petit.
Alors l'idée, c'est que ces médias qui voulaient intégrer la plateforme Snapchat Discover devaient y mettre du leur, engager des équipes dédiées pour travailler sur des formats spécifiques à Discover. Donc ce format vertical, exact, très court, un format stories et un format aussi éphémère, oui, avec la nécessité de renouveler le contenu toutes les 24 heures ou pour certains éditeurs parfois un peu moins avec des contenus qui peuvent rester plusieurs jours. Mais donc c'était un investissement qui était très important.
Exactement, c'était un format très lourd. Je me rappelle encore des équipes du Monde qui avaient à peu près 5-6 personnes dédiées. C'était un format qui aussi était très natif. Le format Discover initial est un format texte, motion design, etc. Et puis, tu le sais aussi bien que moi, même mieux que moi, le marché français et le marché mondial en fait du contenu a pris le virage de la vidéo. Et il a fallu accompagner les médias vers cette nouvelle tendance et proposer un format là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle Discover s'est transformé en une plateforme vidéo avec des vignettes. Donc les couvertures magazine d'antan sont devenues en gros des couvertures, des vignettes vidéo. Et on a pu étendre et ajouter aussi du contenu et de la diversité de contenu, ce qui était important. Moi, je suis arrivé il y a 4 ans chez Snap, notamment pour ça, après un audit. L'idée était simple. Est-ce que en tant que Snapchatter, est-ce que j'ai accès à assez d'informations? Est-ce que je suis bien informé? Est-ce que j'ai assez de divertissement, de contenu et assez de créateurs de contenu? Et sur toutes les verticales, sur tous les sujets, est-ce que j'arrive à étendre mon champ et d'être ce média qui permet aussi de pas seulement miroir de ce qu'on veut voir, mais aussi comment voir de nouvelles choses, parfois même des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais c'est aussi le principe.
Alors, on parlera des créateurs de contenu tout à l'heure, mais restons sur les médias. Quelle est la relation que Snapchat France et que toi, Jean-Philippe Louis, avez avec les médias qui sont actifs sur Snapchat? Vous faites des points réguliers? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques, des exigences même spécifiques?
Je suis en direct avec les médias français. Alors, évidemment, un peu moins au quotidien désormais, puisque au début, on avait 8, 10 partenaires. Maintenant, on en a plus de 80. Donc, évidemment, les discussions vont être parfois plus lentes, mais elles vont être plus riches aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, avec 8 médias, on a un accompagnement quotidien tous les jours. Avec plus de médias, on va se réunir une fois par trimestre ou une fois par mois et on va vraiment faire un point global. Quelle est la présence de ce partenaire sur Snapchat? Et puis, il y a deux discussions. Il y a la première discussion qui est très audience éditoriale, comprendre la plateforme, réussir à cibler cette audience-là. Et puis, il y a une discussion un peu plus business, marketing, qui va être aussi intéressant parce que on veut que Snapchat soit représentatif du paysage médiatique français, mais on souhaite aussi que les médias puissent trouver audience et revenus, c'est-à-dire qu'ils puissent se monétiser sur la plateforme grâce à notre programme de partage de revenus.
Alors, on va insister sur ces deux points-là, déjà en termes d'éditorial et en termes de données aussi. Vous avez une console, on va dire, pour chaque utilisateur et chaque média partenaire qui est en mesure de voir lesquels de ces snaps, de ces format story dans Discover ont performé, ont trouvé leur audience pour voir combien de temps les gens passent sur chaque snap, à quel moment ils décrochent pour passer au suivant et que ça ne les a peut-être pas intéressés, avec l'idée pour le média de coller au plus près de sa communauté pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
C'est ça, on a toujours, d'ailleurs il existe un CMS et énormément de données. Alors, ce sont des données globales évidemment.
CMS c'est une plateforme de gestion de contenu, c'est là que l'on administre les contenus que l'on met sur l'application.
Exactement, et elle est très riche. Je sais qu'on a eu de très bons retours des médias sur cette plateforme parce qu'on avait accès à énormément de données. Alors, pas tant des données d'utilisateurs, mais plutôt des données de visionnage, c'est-à-dire en groupe de personnes. Combien, par exemple, j'ai 100 000 visiteurs uniques, combien de temps ils ont passé sur ce contenu, à quel moment ils ont décroché. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de partenaires médias me disaient qu'ils utilisaient ensuite ces données pour améliorer leur contenu, mais sur toutes les plateformes et même sur leur propre site internet, parce qu'en fait, on a une audience si engagée. dans les contenus et avec les médias, qu'ils arrivaient à avoir des informations auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Et même parfois, il y a aussi ce biais de perception qui est important quand on est un média politique, par exemple, ou on est un média de... Alors, j'ai un exemple là-dessus. Quand l'oncle Hobbes, avec le nouvel Hobbes, se lance dans un format relations internationales, il y a toujours ce biais où on se dit, est-ce que je vais réussir à toucher une audience Snapchat, jeune, France, sur les relations internationales? Et ça marche super bien et ça cartonne. Et ils vont se dire, ah, ben en fait, ce format peut être accessible à un plus large public. Donc en fait, il y a aussi du test and learn grâce à ce type d'outils Snapchat.
Et le journal Le Monde, qui par exemple cette semaine, mercredi, fait un contenu sur la politique malienne et parle d'Assimi Goïta, ça marche pour les utilisateurs français de Snapchat ?
Ça marche pour les utilisateurs français et aussi pour les utilisateurs basés dans le monde. Puisque en gros, si, notamment les utilisateurs francophones, si je suis basé à l'extérieur de la France et que je consomme, je regarde plutôt du contenu en langue française, que je sois basé à New York, que je sois basé sur le continent africain, qu'on soit basé au Moyen-Orient, eh ben en fait, je vais avoir accès à ce contenu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avec les partenaires, on a aussi travaillé à créer, ils ont créé surtout, mais à ajouter plutôt du contenu qui à destination de différents territoires. On a lancé Brut Afrique sur Snapchat avec Brut, Oncle Hobbes sur les relations internationales avec le Nouvel Hobbes, ou encore d'autres formats type politique avec Le Point, etc.
Parmi les médias qui sont actuellement sur Snapchat Discover et qui sont très actifs, on compte un petit peu tout comme type de médias, c'est-à-dire que, ou alors, est-ce que c'est toujours une prime aux médias qui sait faire de la vidéo? Tu as mentionné Brut, par exemple, Jean-Philippe Louis.
Alors, c'est plutôt des médias, on est plutôt sur des médias qui connaissent le format vidéo, mais on est un peu dans une phase de transition actuellement. Tu parlais de Discover, hein, le format magazine, puis on est passé en format vidéo. Ce qui est bien avec ce format vidéo, c'est qu'il est engageant. Et surtout que tout le monde a pris ce virage de la vidéo, donc c'est plus simple, ça engage moins de ressources, notamment pour les médias. Et encore une fois, c'est important pour nous que les médias s'y retrouvent. Mais il manquait quelque chose, c'est-à-dire que tous les jours, par exemple, des créateurs envoient des snaps directement à leur audience, font des sondages, utilisent des bitmoji, échangent directement avec parfois via ce qu'on appelle des story replies, c'est la possibilité de tout simplement d'utiliser une réponse à un snap. Et les médias n'avaient pas accès à ces formats. Donc en ce moment, on est en train de réfléchir à comment uniformiser un peu l'expérience afin que des médias type Brut puissent aussi utiliser ces formats tels que les stories, puisque par exemple, un média va publier de la vidéo mais n'aura pas accès aux stories éphémères de 24 heures qui existent actuellement pour tous les utilisateurs de Snap.
Alors, on parlera tout à l'heure de la dimension business, monétisation, mais j'aimerais que l'on parle d'abord des créateurs, puisque les créateurs sont clairement dans votre spectre chez Snapchat, et toi, Jean-Philippe, tu insistes aussi là-dessus, puisque c'est intéressant de travailler avec eux. Certains ont des voix qui portent, comme Hugo Travers, par exemple, ou d'autres. Et donc, c'est pertinent pour vous de faire coexister médias et créateurs au même endroit.
Exactement, et qu'ils aient accès aux mêmes outils d'engagement. Ça, c'est peut-être le sujet du moment pour nous, c'est le sujet sur lequel je travaille le plus en ce moment en France. Comment s'assurer que Brut puisse avoir effectivement le même niveau d'engagement et les mêmes leviers, les mêmes outils d'engagement que ces créateurs. Parce que ces créateurs, ils ont réussi à créer quelque chose d'assez fort sur Snapchat. Snapchat est une plateforme qui se veut être pro-authenticité, et on souhaite faire en sorte qu'il n'y ait pas cette volonté d'être parfait. Et donc, on est sur une plateforme qui se veut vraiment positive, où en fait, on peut raconter sa vie, les 99% qu'on va peut-être pas montrer sur d'autres plateformes, où on va se contenter du 1% très important.
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a la dimension éphémère ?
Ouais, il y a la dimension éphémère, la plateforme a été conçue pour ça. Beaucoup de plateformes vont parler, c'est très bien, encore une fois, d'authenticité, mais nous, on a été créé pour cette authenticité-là. Et d'ailleurs, ça nous a peut-être même un peu desservi à une époque où le sujet du moment n'était pas l'authenticité, ou c'était plutôt la viralité, ou c'était plutôt être parfait, être beau, être etc. Nous, on est resté sur cette authenticité. Moi, j'ai un créateur il y a pas longtemps qui m'a appelé même, qui était au téléphone et qui me disait mais en fait Jean-Philippe c'est fou, moi sur Snapchat je peux même manger du riz et je perds pas de followers. Voilà, c'est quelque chose d'assez marrant. Et ce niveau d'authenticité là vient du produit qui effectivement les stories, parce qu'on est sur un format très simple. Et j'ai une histoire d'ailleurs assez marrante avec un média là-dessus, sur le format stories vertical, prendre son téléphone, être en facecam et échanger avec l'audience. Brut nous racontait il y a encore quelques jours que lors de l'interview d'Emmanuel Macron, donc c'était je crois automne 2020,
mené par Rémi Buzine,
exactement, il y avait donc un format exclusif Snapchat, et donc Brut avait utilisé plusieurs caméras pour faire cette interview, et notamment à un moment les journalistes de Brut invitent l'équipe d'Emmanuel Macron à tout simplement prendre le téléphone en se disant ben là ça va être un peu plus authentique puisque ça va être Snapchat, etc. Et il le prend finalement et il le fait. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant si tu regardes un peu les contenus du président sur les réseaux sociaux, c'est très engageant et très authentique parce que justement il y a ce facecam, ce je prends le téléphone, etc. Et c'est vraiment ce qu'on a créé via le produit d'abord, et du coup qui a créé tout cet écosystème super authentique. Ouais.
Alors il y a forcément des auditeurs de l'atelier des médias de RFI qui là nous écoutent et se disent « Moi j'ai envie de devenir un créateur, je sais créer du contenu, j'adore Snapchat, comment faire pour réussir à intégrer la plateforme et à être mis dans les médias partenaires de Snapchat ?»
On a des critères spécifique. Donc on a un peu une labellisation qui est importante et qu'on va garder pour les médias et pour les créateurs reconnus, certifiés. Pour devenir un créateur sur Snap, il suffit d'avoir un compte Snap public, déjà. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, vous avez deux formats. Il y a un format qu'on a lancé il n'y a pas longtemps parce qu'on n'avait pas cette possibilité sur Snap, effectivement, et tu as raison de le préciser, d'être découvert. Je suis un créateur installé, je parle à mes abonnés presque comme si c'était mes amis au final, mais si j'arrive, comme on dit, from scratch hein, sur la plateforme,
de zéro.
Voilà, de zéro, merci, en fait c'est difficile d'être découvert. Et donc on a lancé Spotlight, qui est nous, notre plateforme à nous de vidéos courtes, avec cet algorithme, avec ce flux, pour être sûr qu'on puisse découvrir de nouveaux créateurs. Donc pour un créateur qui arrive sur Snap, ce contenu performant, édité, bien fait, vrai, engageant, en fait, vous allez pouvoir le mettre sur Spotlight et il va falloir y aller, hein, poster, c'est bien, tout simplement parce que plus je poste, en fait, plus je vais découvrir, plus je vais élargir mon audience. Et puis les stories, ça va être de l'engagement supplémentaire et là, ça va plus être pour une audience qui me connaît, qui me suit ou qui me suit pas encore si je suis certifié, mais en tout cas qui pourrait être intéressé par mon contenu. Et ces deux formats servent tout simplement à devenir un créateur sur Snapchat et à engager une audience.
Mais si j'ai envie d'en faire mon métier, oui. Et que du coup, je commence à déjà avoir certaines performances. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez regarder en matière, vous, de performance? C'est quoi? C'est le nombre de... Les likes, partages et autres sont pris en compte par Snapchat?
Non, on n'a pas de likes.
Voilà, c'est bien de le préciser.
On n'a pas de likes puisqu'on essaie de... On a un système, effectivement, de cœur, hein, mais c'est plus pour dire qu'on aime bien, mais on n'a pas de comptage. C'est-à-dire que on n'a pas de critères de vanité pour dire j'ai X millions de likes, donc je suis très célèbre. L'idée, nous, c'est vraiment d'enlever ces critères et d'être sur un vrai engagement. Alors, comment faire pour être labellisé, hein, puisqu'en fait, c'est ça, c'est à partir de ce moment où on devient un créateur certifié Snapchat qu'on va pouvoir monétiser son contenu. Il y a des critères d'engagement, évidemment. Alors, l'engagement, ça va être le nombre d'abonnés, les vues, etc. Ce sont des critères, j'ai envie de dire, basiques. Le plus gros critère, si on peut dire gros, en tout cas celui qui a le plus de poids, ça va être la qualité du contenu. Et quand je dis qualité du contenu, qualité ne veut pas dire de quoi je parle ou comment je raconte, mais tout simplement le respect de nos règles communautaires. On est sur une plateforme effectivement pour une audience pas si jeune d'ailleurs, hein, puisque la moyenne d'âge est de plus de 30 ans, mais en fait une audience jeune quand même, avec des utilisateurs de plus de 13 ans. On veut s'assurer que le contenu labellisé Snapstars, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, il n'y a pas de mot français encore, mais on va trouver, le label Snapstars, en fait, soit pour des créateurs de qualité qui respectent les règles. Et c'est clairement ces deux critères qui vont jouer. Après, il y a d'autres critères un peu secondaires, la pertinence culturelle, etc. Mais c'est d'abord engagement et qualité, donc respect de nos règles communautaires qui permet de devenir Snapstar.
C'est presque une approche d'éditeur, comme un média.
C'est presque une approche d'éditeur, c'est ça. En fait, après, on veut que les critères soient, ils sont publics, ils sont connus de tous, ils sont sur notre site internet. On peut tout simplement se rendre sur le site internet et demander, faire une demande pour devenir Snapstars. Donc, tout ça est très transparent parce que si on commence à avoir trop d'intermédiaires pour cette certification, ah ben, en gros, on peut tomber sur tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire, en fait, décider, faire du cas par cas, j'aime pas ce contenu, etc. Et clairement, pour moi, comme je disais, je suis arrivé il y a 4 ans pour ajouter de la diversité, notamment sur le contenu, c'est essentiel que tout le monde puisse, justement, devenir créateur et puisse prétendre à la certification s'il a un contenu de qualité.
Vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Mon invité est Jean-Philippe Louis, responsable des partenariats contenu et créateurs chez Snapchat France. Jean-Philippe, on est dans une période où il y a tout de même un certain désamour pour les réseaux sociaux. Évidemment, on pourrait parler de X, on peut aussi parler d'Instagram. Et en septembre, Snapchat tenait sa conférence annuelle à Santa Monica, près de Los Angeles. L'objectif, c'était de montrer que Snapchat n'est pas une app nocive pour la santé mentale, contrairement à certains de ses concurrents, et notamment TikTok. On parlait d'impact positif. Comment faire pour que les médias qui sont présents sur Snapchat et cet impact positif?
En ayant peut-être les mêmes outils que les utilisateurs et les créateurs qui rendent Snapchat positif. Encore une fois, très important de bien retracer cette historique où en fait on avait les Discover Magazine et les fameux shows, donc c'était des formats vidéo de syndication. Donc syndication, ça veut dire que c'était un peu impersonnel. Donc on se retrouve dans un écosystème au final de communication visuelle avec des utilisateurs, des créateurs qui s'envoient des stories, qui parlent, qui utilisent des lens drôles, qui augmentent la réalité avec la réalité augmentée et à côté les médias qui ne peuvent pas s'emparer de tous ces outils qui créent cet univers, cette atmosphère positive chez Snapchat et en fait qui peuvent juste mettre 1, 2, 3 vidéos par semaine. Donc l'idée pour les médias, pour participer à cet écosystème qu'on souhaite positif, bah, en fait on va leur donner les mêmes outils. On le fait déjà, on fait des tests, on l'a fait avec France Télévisions avec Caméra Kit pour l'émission qui s'appelle Bertrand n'a pas sommeil, où en gros c'était des questions assez marrantes posées par Bertrand Chameroy en utilisant les lens Snapchat qui ont d'abord vocation à être fun et drôle. On le fait avec d'autres partenaires médias, mais par exemple, encore plus simple, on a un AR studio donc en France, un studio de réalité augmentée, et pour la journée internationale du droit des femmes, on a augmenté tout simplement l'espace public où seulement 10% des statues en fait représentaient, en tout cas sont dédiées aux femmes, et donc on avait des statues en réalité augmentée de Simone Veil, des statues de Marguerite Duras, des statues de Joséphine Baker. C'était important justement que cette réalité augmentée serve justement à créer cette atmosphère positive qu'on souhaite sur Snap.
Montrer que vous avez un rôle social. Evan Spiegel, qui est le boss de Snap et un des cofondateurs, a parlé d'un nouveau programme pour informer les parents sur les dangers du numérique. Mmh. Parlons-en.
Alors c'est un programme par an. Le principe de ce programme est simple, c'est donner la possibilité aux parents de voir ce que les interactions qu'ont les enfants, mais tout en préservant quand même une partie de leur vie privée. C'est-à-dire presque calquer les vraies relations qui existent entre le parent et l'adolescent. Et donc ce programme est très simple, c'est-à-dire que moi je suis un parent et je vais pouvoir avoir accès à tout simplement si mon enfant a utilisé My AI, s'il y a des conversations qui reviennent très souvent, puisqu'on a déjà in-app, hein, déjà en termes de produits, on a énormément d'outils de protection, mais du coup on voulait aussi faire en sorte que les parents prennent le pouvoir aussi sur l'app et qu'ils puissent contrôler également la présence des enfants sur la plateforme.
Parce que ce qu'on reproche souvent aux réseaux sociaux, c'est d'afficher bien des contenus qui peuvent heurter la sensibilité de certains, qui peuvent même parler, enfin avoir trait avec de la désinformation. Là-dessus, d'ailleurs, Snapchat insiste sur l'importance de la modération humaine. Les équipes de modération de Snapchat pour les contenus en français, où sont-elles? Combien sont-elles? As-tu quelques infos à nous partager là-dessus?
Alors, il y a deux choses. Sur les contenus, je veux préciser aussi que sur ce centre parental, il y a aussi la possibilité, effectivement, de contrôler les contenus qui seront accessibles pour les enfants, pour être sûr qu'ils ne tombent pas justement sur tel ou tel type de contenu, malgré toute la modération qui a lieu. Alors, sur cette partie modération, on ne dévoile pas vraiment combien, où sont-ils basés, etc., pour différentes raisons. On est très transparent sur le fait qu'il y a effectivement une modération humaine, il y a aussi une modération qui empêche notamment un contenu de devenir viral. C'est-à-dire un contenu, quand il est non modéré, il ne peut pas s'étendre sur Spotlight, tant qu'il n'est pas vraiment modéré par les équipes. On est au final une petite boîte hein, par rapport aux grandes entreprises tech, mais on continue plutôt à embaucher encore sur les équipes Trust and Safety, donc confiance et sécurité. Ça représente à peu près, je crois, 20% hein, de nos effectifs. Et surtout, toutes les équipes, donc que ce soit créateurs, notamment on travaille avec les RPP, avec le régulateur, sur les médias, on travaille avec l'ARCOM, etc. On fait toujours en sorte d'être nous-mêmes éduqués à la sécurité. Donc au final, 20% d'équipes Trust and Safety, X% ou basées à tel endroit de modération, mais surtout un travail avec les associations, les parents, les pouvoirs publics, l'ARCOM. On travaille notamment avec l'association e-enfance, avec nos équipes policiers. Donc c'est un sujet de société globale au final, les fausses informations, mais d'autres sujets de sécurité qui sont très importants pour nous. On essaie de le faire à 360 et pas seulement se dire on a X nombre de modérateurs, voilà, ce sont on en a hein, évidemment, et il y a une équipe qui est bien basée, mais c'est juste qu'on ne communique pas, en tout cas moi je ne communique pas en tant que responsable média sur ces chiffres là, mais en tout cas ils existent bien, et surtout c'est un travail qui est beaucoup plus large avec aussi le travail des autorités.
Et Jean-Philippe Louis, il y a également des formats spécifiques sur Snapchat faits et portés par certains médias. 20 minutes avait notamment fait Oh My Fake, oui. Il y en a, on peut peut-être en parler, il y en a d'autres.
Oui, c'est aussi, quand on parle de 360, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on va travailler directement aussi avec les médias pour s'assurer de là, qu'il n'y ait pas de fake news sur la plateforme. Donc on l'a fait avec 20 minutes, un super format qui s'appelle Oh My Fake. L'idée, c'était tout simplement de prendre ces sujets qui sont un peu ancrés dans les conversations et tout simplement de les débunker, je crois que c'est le mot adéquat cette fois.
de les vérifier,
voilà. Et donc du coup essayer de vérifier ces informations. On le fait avec d'autres médias. Tous les jours, Le Monde par exemple va donner des informations vérifiées, mais on voulait vraiment un format référence pour ce type de contenu. Depuis, on a ajouté énormément de partenaires médias qui vont aussi donner des informations, et je précise vraiment, encore une fois, représentatif du paysage local et médiatique français.
Jean-Philippe Louis, parlons aussi bien de deux axes de Snapchat actuellement. Alors actuellement, je dis actuellement, mais ça fait longtemps que Snapchat fait de la réalité augmentée. Oui. On l'a vu même il y a quelques jours au Parc des Princes, sur les écrans du Parc des Princes pendant un match du PSG, et bien ces filtres qui permettaient de grimer, de modifier, d'ajouter des choses sur le visage des gens. Ça, c'est toujours un axe de développement de Snapchat.
C'est un
très prisé des utilisateurs, évidemment.
Parce que c'est très prisé, parce que c'est 300 millions de personnes qui utilisent la réalité augmentée, et puis c'est aussi ce qui crée une plateforme positive. Je donne un exemple très simple. On parle de communication visuelle. Pourquoi ? Oui, j'utilise l'app, j'envoie des snaps, etc. Mais je donne un exemple. Ma mère est antillaise, elle parle pas beaucoup. Mais parfois, quand je pars en Guadeloupe, en fait, je me pose à côté d'elle et j'utilise les lens avec elle et on se marre. C'est de la communication, c'est visuel, c'est drôle, c'est positif. Et beaucoup de notre Snapchatters, pardon, utilisent cette réalité augmentée tous les jours. Des créateurs, par exemple, vont créer des personnages autour de la réalité augmentée. Natou avait créé créé le personnage de Tristian avec le fameux filtre Crying Lens, plus je rigole et plus je pleure, où elle avait fait en fait une journée en montgolfière avec Tristian. On a et donc caméra, la Snapchat caméra, donc ce dont tu parles hein, au PSG, c'est tout simplement la possibilité d'intégrer dans la caméra. Dans votre caméra, dans la caméra, pourquoi pas un jour RFI ou France 24, vous avez des caméras RFI, d'intégrer dans la caméra.
Il n'y a pas de caméra dans ce studio, voilà, ce n'est pas de la radio filmée aujourd'hui.
Donc d'intégrer dans la caméra les lens Snapchat et ça fonctionne très bien. On a fait avec donc France Télévisions, le PSG, NFL, NBA et d'autres partenaires médias s'apprêtent à se lancer sur ce format qui permet d'augmenter la réalité qui est vraiment différent de la réalité virtuelle où on va se créer une autre réalité, une fausse ou bref. Mais en tout cas, l'augmenter, c'est tout simplement ajouter quelque chose à cette réalité. On ne veut pas la quitter, on veut juste l'améliorer.
Il y a également l'intelligence artificielle qui a débarqué sur l'application Snapchat il y a plusieurs mois maintenant. Un assistant personnel qui s'intitule My AI, mon intelligence artificielle, à laquelle on peut poser des questions. Par exemple, hier, j'ai écrit à My AI en lui disant que je te recevais aujourd'hui, Jean-Philippe Louis, et je lui ai demandé quelles questions eh bien, je pourrais te poser. On m'a dit tu pourrais poser des questions sur les projets récents de Snap Incorporation, les tendances dans le secteur des médias et la vision de l'entreprise pour l'avenir. Et on me demandait si j'avais déjà des idées de questions en tête. Alors j'ai dit oui, évidemment. Et j'aimerais aussi lui poser des questions, savoir quels sont les sujets un petit peu qui risqueraient de mettre mon invité dans l'embarras, figure-toi. My AI m'a dit certains sujets qui pourraient mettre ton invité dans l'embarras pourraient être des questions trop personnelles sur sa vie privée, on va éviter, des sujets controversés ou sensibles liés à son entreprise, on en aura peut-être tout à l'heure, ou des questions qui pourront compromettre la confidentialité de l'entreprise. Quand on rejoint une entreprise comme celle-là, c'est peut-être encore plus sensible que dans d'autres entreprises où il y a des choses que l'on ne peut pas dévoiler, on va dire.
Je suis un ancien journaliste, j'ai travaillé dans le média, c'est le média avec la plus grosse audience pour laquelle j'ai travaillé, donc on a des responsabilités tout simplement. Je pense que tout rédacteur en chef, tout responsable de média ou journaliste travaillant dans un média a une responsabilité envers son audience. Donc imaginons maintenant quand on a une responsabilité envers 21 millions de personnes, puisque c'est tout simplement l'audience en France pour Snapchat. Cela implique effectivement des protocoles de sécurité, de faire attention à ce qu'on dit et de faire attention surtout à nos Snapchatters. Et donc oui, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qui ne sont pas, voilà, on ne sait pas, une volonté de cacher, parce qu'encore une fois, on travaille énormément avec tous les régulateurs, et je parle de la partie média, puisque c'est la partie qui me concerne, hein, je ne peux pas trop aller trop loin, malheureusement, mais sur la partie créateur avec la RPP, avec l'ARCOM, sur les médias, etc., etc. Nos équipes policières font un travail formidable avec les autorités françaises. Mais oui, effectivement, on fait attention.
Alors, l'intelligence artificielle, My AI de Snapchat, m'a aussi dit il est important de respecter la sphère privée de ton invité et de maintenir une discussion professionnelle et respectueuse. Ce que nous essayons de faire. Jean-Philippe Louis de Snapchat. Snap vit principalement de la publicité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les médias, vous leur permettez de monétiser leur contenu. C'est à la fois une façon pour vous, plateforme, eh bien de vivre, mais aussi pour les médias de monétiser leur contenu et de faire entrer de l'argent, ou au moins d'être à l'équilibre pour certains sur leur présence sur la plateforme.
C'est ça. C'est un programme de partage de revenus. Simplement, on veut s'assurer que partenaires médias et créateurs récemment puissent tout simplement être rémunérés pour le contenu qu'ils mettent sur la plateforme.
Alors ce qui est intéressant, c'est que Snap peut être porteur d'affaires ou les créateurs ou médias peuvent aussi être porteurs d'affaires. C'est-à-dire que lorsque l'on est un grand média, que l'on a déjà de la publicité par ailleurs, on est en mesure d'inclure ses propres publicités dans votre système.
Alors certains partenaires ont effectivement cette possibilité de commercialiser leur inventaire. Ça va être de plus en plus le cas, à mon avis, puisqu'on s'ouvre un peu plus à ces choses. Pendant très longtemps, Discover était une plateforme un peu réserver une plateforme éditoriale, exclusivement éditoriale, avec un programme de partage de revenus. On s'est quand même ouvert parce que tout simplement le business model des médias a également changé, avec notamment du brand content, etc. Et on voulait tout simplement apporter aussi ces leviers-là aux partenaires médias. Et pour te faire une confidence, c'est exactement le sujet sur lequel nous travaillons actuellement, puisqu'en fait, on est en train d'opérer une sorte de transition pour que les partenaires médias, comme je le disais en préambule, aient accès aux mêmes outils que les créateurs, qui monétisent également. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent aussi prendre un peu plus le pouvoir sur la plateforme par rapport à leur business model à eux. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisqu'en fait, ils publiaient leur contenu et on opérait un rev share. Ça va pas changer, mais en fait, on veut apporter de nouvelles choses et de nouveaux outils, pourquoi pas de monétisation.
Snapchat, pour le coup, vit, quand bien même la plateforme est en croissance permanente, n'est toujours pas rentable, même si elle réduit ses pertes opérationnelles. Au final, médias et plateformes, pour votre ont quand même besoin de se serrer les coudes par les temps qui courent, j'ai l'impression.
Je suis responsable de partenariat et on a de vrais partenaires et j'en profite, hein, s'ils m'écoutent, je le remercie parce que on a des discussions très franches. On a un rapport, une relation solide. Je prends l'exemple de Brut par exemple, on n'est pas sur un partenariat qui date d'il y a 6 mois, on est sur un partenariat qui date de plusieurs années. Ils ont évolué avec nous, ils ont changé avec nous. Le Monde qui passe d'un format magazine, donc il faut imaginer, hein, vraiment magazine, texte, motion design, etc., et qui, avec nous, prend ce virage de la vidéo pour accompagner, parce qu'ils ont plus d'un million de followers sur la plateforme, ah ben en fait, c'est exactement ce type de relation qu'on veut préserver avec les médias sur toutes les facettes, hein, de leur business, à la fois donc éditorial, audience, mais aussi revenus et donc commercialisation et publicité.
Donc en gros, les médias chez vous, vous êtes amenés à en accueillir encore plus, davantage, s'ils ont les reins solides et qu'ils sont en mesure de vous rejoindre. Quelle marge de développement vous essayez d'avoir avec eux, peut-être sur une approche plus régionale, sur une approche à l'international aussi, dans d'autres marchés qui ne sont pas encore ouverts et qui sont des marchés de conquête. On parlait tout à l'heure de l'Afrique.
Ouais, les deux. On essaye sur la partie effectivement régionale. On essaye effectivement de travailler avec les médias type la province qui a fait son apparition sur la plateforme. On va travailler à l'international. Alors comment on fait dès qu'on va arriver sur un marché, alors il y a plusieurs raisons, tout simplement l'appétit d'un marché, le fait de pouvoir s'y intégrer, qui est une audience aussi, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va donc faire venir des acteurs locaux et on va travailler à développer ce secteur. On veut vraiment, à chaque fois, dans chaque pays, créer une expérience locale. On a lancé un bureau à Riyad, donc il y aura une expérience locale de contenu avec des créateurs et des médias. Et on veut à chaque fois, la question qui revient le plus souvent quand je travaille avec un média et nos premières réunions sont: quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire sur la plateforme? Est-ce que vous avez des objectifs plutôt d'audience, de monétisation, d'extension même de l'audience? Est-ce que vous cherchez à toucher les moins jeunes, les plus jeunes? Snapchat, c'est une masse audience, donc il y a énormément de possibilités pour un média. Et mon premier mot est toujours: ne vous limitez pas, ne vous dites pas ce contenu ce n'est pas pour Snapchat. Snapchat, c'est une plateforme qui réunit des millions et des millions de Snapchatteurs, donc lancez-vous. Et ensuite, pour vraiment répondre à ta question sur l'extension à l'international, en fait on va vraiment travailler sur les marchés où on est présent certains marchés où on n'est pas encore présent pour différentes raisons, mais en fait, on va travailler peut-être sur la langue.
Donc sur l'Afrique francophone, par exemple, est-ce qu'il y a des projets pour Snapchat?
Sur l'Afrique francophone, alors on a des projets qui ont déjà été lancés, hein, donc le lancement de Brut Afrique, j'ai dit, c'était très important. On a travaillé avec Brut pour ce lancement de Brut Afrique. Le lancement de Oncle Hobbs avec le nouvel Hobbs, parce que c'était vraiment un format important pour nous. Et puis tout simplement, le travail que l'on mène avec les équipes du Monde, que tu as pu voir justement, qui font un travail formidable justement pour ne pas simplement informer sur la politique française ou sur les sujets français, mais aussi d'élargir l'audience parce qu'ils savent que cette communauté est immense sur Snap et qu'elle ne concerne pas que Paris ou que Paris Grande Couronne ou la France.
La moyenne d'âge des utilisateurs de Snapchat, tu nous l'as donné tout à l'heure, 33 ans, ouais. C'est très élevé, mine 35. De rien. C'est donc l'application, les utilisateurs vieillissent d'une certaine façon. Donc quand on dit en tant que média, je vais sur Snapchat parce que c'est là que je peux toucher les jeunes, est-ce que c'est encore vrai?
C'est encore vrai, puisque les jeunes sont encore là, ils arrivent, c'est juste que l'audience qui était là au début est restée et a vieilli avec nous. Mais il y a encore l'audience jeune qui continue à être sur la plateforme et ils ont d'ailleurs différents comportements en fonction forcément sur les types de contenus qu'ils vont regarder. Et d'ailleurs, c'est très intéressant pour un média. Un exemple, un partenaire média qui se dit « je fais de la parentalité » par exemple, est-ce que j'ai ma place sur Snapchat ? Évidemment que j'ai ma place sur Snapchat, puisqu'on a une audience effectivement de jeunes parents. Ce sont des gens, ils sont arrivés sur Snapchat au début, ils snappaient peut-être après l'école, et puis en fait ils ont grandi, ils sont rencontrés, ils ont eu des enfants, et eux ils souhaitent aussi s'informer, se divertir aussi, mais avoir des clés et s'éduquer sur la paternité, la maternité, la parentalité en général. Donc on accompagne toutes ces audiences à travers les contenus, à travers les médias et donc les créateurs de contenu. Donc clairement oui, c'est une opportunité en fait que cette audience soit aussi large avec des âges différents.
On a beaucoup parlé des médias, mais donc les créateurs sont votre relais de croissance chez Snapchat. Il y a quelques jours, Enjoy Phoenix, dans une vidéo YouTube, a rappelé ou a annoncé plutôt qu'elle allait revenir sur Snapchat et peut-être passer un peu moins de temps sur d'autres applications. Pour vous, c'est une victoire ce genre de choses, j'imagine?
Ce n'est pas une victoire. J'ai vu la vidéo, c'est plutôt une confirmation de ce qu'on sait et de ce qu'on veut faire. Je crois que sur cette vidéo, elle dit qu'elle vient sur Snap parce que, en gros, elle a une pression de beauté et de perfection sur d'autres plateformes et que sur Snapchat, elle peut être elle-même. C'est une victoire parce que c'est ce qu'on veut faire.
Après, on ne peut pas être sûr qu'elle n'a pas été payée pour dire ça.
Elle n'a pas été payée pour dire ça, ça je peux le dire. Voilà, tout simplement. Non, j'ai découvert cette vidéo sur son vlog et j'en suis ravi. Je suis ravi en tout cas qu'elle ait ce sentiment de bien-être sur la plateforme parce qu'on travaille vraiment et tous les jours pour ça. Et encore une fois, Snapchat a été pensé pour cette authenticité-là. Quelques anecdotes à ce sujet. On a une créatrice qui nous dit mais c'est fou sur Snapchat, j'ai l'impression que ce sont vraiment mes super fans, c'est-à-dire qu'ils me connaissent vraiment, que ce sont en fait qu'ils regardent mon contenu pas comme si j'étais un créateur ou une créatrice de contenu, mais comme si j'étais un ami ou une amie. Et c'est quelque chose qu'on ressent énormément sur Snap. Et donc évidemment quand une créatrice aussi connue que Enjoy Phoenix vient valider ce postulat, ce qu'on sait de notre application, ça fait plaisir, oui, bien sûr.
Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Philippe Louis.
Merci beaucoup.
Je rappelle que tu es responsable des partenariats contenu et créateurs chez Snapchat France. Et je te dis à bientôt dans l'Atelier des médias.
À bientôt.
C'est la fin de cet Atelier des médias que vous pouvez, comme toujours, écouter dans une version plus longue en podcast. Cette semaine, Jean-Philippe Louis et moi-même sommes restés quelque chose comme 45 minutes en studio. Choisissez la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore RFI Pure Radio. Je remercie Simon de Creuse qui assure l'enregistrement et la réalisation de l'Atelier des médias. Si vous voulez nous écrire, voici notre email atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.